Chapitre 17, d'anciennes connaissances, où le lecteur aura le plaisir de retrouver Monsieur de Beausire tel qu'il l'avait quitté. Le soir même du jour où Monsieur Louis de Bouillé avait eu l'honneur d'être reçu par la reine d'abord et par le roi ensuite, entre 5 ou 6 heures, il se passait au troisième et dernier étage d'une vieille petite salle et sombre maison de la rue de la Juiverie, une scène à laquelle nous prierons nos lecteurs de permettre que nous les fassions assister. En conséquence, nous les prendrons à l'entrée du pont au change, soit à la descente de leur carrosse, soit à la descente de leur fiacre, selon qu'ils auront 6 000 livres à dépenser par an pour un cocher, 2 chevaux et une voiture, ou 30 sous à donner par jour pour une simple voiture numérotée. Nous suivrons avec eux le pont au change, nous entrerons dans la rue de la Pelleterie et nous les suivrons jusqu'à la rue de la Juiverie où nous nous arrêterons en face de la 3e porte à gauche. Nous savons bien que la vue de cette porte, que les locataires de la maison ne se donnent même pas la peine de fermer, tant ils se croient à l'abri de toute tentative nocturne de la part de messieurs les voleurs de la cité, n'est pas fort attrayante. Mais nous l'avons déjà dit, nous avons besoin des gens qui habitent dans les mansardes de cette maison, et comme ils ne viendraient pas nous trouver, c'est à nous, chers lecteurs ou bien-aimés lectrices, d'aller bravement à eux. Assurez donc le mieux possible votre marche pour ne pas glisser dans la boue visqueuse qui fait le sol de l'allée étroite et noire dans laquelle nous nous engageons. Serrons nos vêtements le long de notre corps pour qu'ils ne frôlent même pas les parois de l'escalier humide et graisseux qui rampe au fond de cette allée comme les tronçons d'un serpent mal rejoint. Approchons de nos narines un flacon de vinaigre ou un mouchoir parfumé de notre visage pour que le plus subtil et le plus aristocrate de nos sens, l'odorat, échappe autant que possible au contact de cette air chargé d'azote que l'on respire à la fois par la bouche, par le nez et par les yeux, et arrêtons-nous sur ce palier du 3e, en face de cette porte où l'innocente main d'un jeune dessinateur a tracé à la craie des figures qu'au premier abord on pourrait prendre pour des signes cabalistiques et qui ne sont que des essais malheureux dans l'art sublime des Léonard de Vinci, des Raphaël et des Michel-Ange. Arrivés là, nous regarderons, si vous le voulez bien, à travers le trou de la serrure, afin, chers lecteurs ou bien-aimés lectrices, que vous reconnaissiez, si vous avez bonne mémoire, les personnages que vous allez rencontrer. D'ailleurs, si vous ne les reconnaissez pas à la vue, vous appliquerez votre oreille à la porte et vous écouterez. Il sera bien difficile alors, pour peu que vous ayez lu notre livre du collier de la reine, que Louis ne vienne pas au secours de la vue. Nos sens se complètent les uns les autres. Disons d'abord ce que l'on voit en regardant par le trou de la serrure. L'intérieur d'une chambre qui indique la misère et qui est habitée par 3 personnes. Ces 3 personnes sont un homme, une femme et un enfant. L'homme a 45 ans et en paraît 55. La femme en a 34 et en paraît 40. L'enfant a 5 ans, lui paraît son âge. Il n'a pas encore eu le temps de vieillir 2 fois. L'homme est vêtu d'un ancien uniforme de sergent aux gardes françaises, uniforme vénéré depuis le 14 juillet, où les gardes françaises se réunirent au peuple pour échanger des coups de fusil avec les Allemands de Monsieur de Lambesque et les Suisses de Monsieur de Bézenval. Il tient à la main un jeu de cartes complet, depuis l'As en passant par le 2, le 3 et le 4, de chaque couleur jusqu'au roi. Il essaye pour la 100e, pour la 1000e, pour la 10 000e fois une martingale infaillible. Le carton, piqué d'autant de trous qu'il y a d'étoiles au ciel, repose à ses côtés. Nous avons dit « repose » et nous nous hâtons de nous reprendre. « Repose » est un mot bien impropre employé à l'endroit de ce carton, car le joueur, il est incontestable que c'est un joueur, le tourmente incessamment en le consultant de 5 minutes en 5 minutes. La femme est vêtue d'une ancienne robe de soie. Chez elle, la misère est d'autant plus terrible qu'elle apparaît avec des restes de luxe. Ses cheveux sont relevés en chignon avec un peigne de cuivre autrefois doré. Ses mains sont scrupuleusement propres et, à force de propreté, ont acquis ou conservé un certain air aristocratique. Ses ongles, que monsieur le baron de Tavernet, dans son réalisme brutal, appelait de la corne, sont habilement arrondis vers la pointe. Enfin, des pantoufles passées de ton, éraillées en certains endroits, qui furent autrefois brodées d'or et de soie, jouent à ses pieds, couverts par des restes de bas à jour. Quant au visage, nous l'avons dit, c'est celui d'une femme de 34 à 35 ans, qui, s'il était artistement travaillé à la mode du temps, pourrait permettre à celle qui le porte de se donner cet âge, auquel, pendant un lustre, comme dit l'abbé de Celles, et même pendant 2 lustres, les femmes se cramponnent avec acharnement, 29 ans, mais qui, privée de rouge et de blanc, dénuée par conséquent de tout moyen de cacher les douleurs et les misères, cette troisième et cette quatrième aile du temps accusent 4 ou 5 années de plus que la réalité. Au reste, toute dénuée qu'est cette figure, on se prend à rêver en la voyant, et sans pouvoir se faire de réponse, tant l'esprit, si hardi que soit son vol, hésite à franchir une pareille distance, on se demande dans quel palais doré, dans quel carrosse à 6 chevaux, au milieu de quelle poussière royale, on a vu un resplendissant visage dont celui-ci n'est que le pâle reflet. L'enfant a 5 ans, comme nous l'avons dit. Il a les cheveux frisés d'un chérubin, les joues rondes d'une pomme d'api, les yeux diaboliques de sa mère, la bouche gourmande de son père, la paresse et les caprices de tous les deux. Il est vêtu d'un reste d'habit de velours nacarat, et tout en mangeant un morceau de pain beurré de confiture chez l'épicier du coin, il effile le débris d'une vieille ceinture tricolore frangée de cuivre dans le fond d'un vieux chapeau de feutre gris-perle. Le tout est éclairé par une chandelle à lumignon gigantesque à laquelle une bouteille vide sert de chandelier et qui, tout en plaçant l'homme aux cartes dans la lumière, laisse le reste de l'appartement dans une demi-obscurité. Cela posé, et comme selon notre prévision, l'inspection à l'œil nu ne nous a rien appris, écoutons. C'est l'enfant qui rompt le premier le silence en jetant par-dessus sa tête sa tartine de pain qui va retomber au pied du lit, réduit à un matelas. « Maman, dit-il, je ne veux plus de pain et de confiture. Pois !»« Eh bien, que veux-tu, Toussaint ?»« Je veux un bâton de sucre d'orge rouge. « Entends-tu, beau sire ?» dit la femme. Et puis, voyant qu'absorbé par ses calculs, beau sire ne répond pas, « Entends-tu ce que dit ce pauvre enfant ?» reprend-elle plus haut. Même silence. Alors, ramenant son pied à la hauteur de la main et prenant sa pantoufle qu'elle jette au nez du calculateur, « Eh, beau sire !» dit-elle. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » demande celui-ci avec un visible accent de mauvaise humeur. « Il y a que Toussaint demande du sucre d'orge rouge parce qu'il ne veut plus de confiture, pauvre enfant. Il en aura demain. J'en veux aujourd'hui, j'en veux ce soir, j'en veux tout de suite, moi !» crie l'enfant d'un ton pleurard qui menace de devenir orageux. « Toussaint, mon ami, dit le père, je te conseille de nous accorder le silence ou tu auras affaire à papa. » L'enfant jeta un cri, mais qui lui était bien plutôt arraché par le caprice que par l'effroi. Ah, touche un peu au petit ivrogne et tu auras affaire à moi, dit la mère en allongeant vers Beau Sire cette main blanche qui, grâce aux soins qu'avait pris sa propriétaire d'en effiler les ongles, pouvait au besoin devenir une griffe. Qui diable veux-tu toucher à cet enfant? Tu sais bien que c'est une façon de parler, Madame Oliva, et que si de temps en temps on bat les habits de la mère, on a toujours respecté la casaque de l'enfant. Allons, venez embrasser ce pauvre beau sire qui, dans 8 jours, sera riche comme un roi. Allons, venez, ma petite Nicole. Quand vous serez riche comme un roi, mon mignon, il sera temps de vous embrasser. Mais d'ici là, nenni. Mais puisque je te dis que c'est comme si j'avais là 1 million, fais-moi une avance, cela nous portera bonheur, le boulanger nous fera crédit. Un homme qui remue des millions et qui demande au boulanger crédit pour un pain de 4 livres. Je veux du sucre d'orge rouge, moi! Cria l'enfant d'un ton qui devenait de plus en plus menaçant. Voyons, l'homme au million, donne un morceau de sucre d'orge à cet enfant. Le beau sire fit un mouvement pour porter la main à sa poche, mais la main n'accomplit pas même la moitié de la route. Eh, dit-il, tu sais bien que je t'ai donné hier ma dernière pièce de 24 sous. Puisque tu as de l'argent, mère, dit l'enfant, se retournant vers celle que le respectable monsieur de Beausire venait d'appeler tour à tour Oliva et Nicole, donne-moi un sou pour aller chercher du sucre d'orge rouge. Tiens, en voilà deux, méchant enfant, et prends garde de tomber en descendant par les escaliers. Merci, petite mère, dit l'enfant en sautant de joie et en tendant la main. Allons, viens ici, que je te remette ta ceinture et ton chapeau, petit drôle, afin qu'on ne dise pas que monsieur de Beausire laisse aller son enfant tout déloqueté par les rues, ce qui lui est bien égal à lui qui est un sans-cœur, mais ce qui me ferait mourir de honte, moi. L'enfant avait bonne envie, au risque de ce que pourraient dire les voisins sur l'héritier présomptif de la maison Beausire, de se priver de son chapeau et de sa ceinture, dont il n'avait reconnu l'utilité que tant que, par leur fraîcheur et leur éclat, ils avaient excité l'admiration des autres enfants. Mais comme ceinture et chapeau étaient une des conditions de la pièce de 2 sous, il fallait bien que, tout récalcitrant qu'il était, le jeune Matamore passa par là. Il s'en consola en mettant, avant de sortir, sa pièce de 10 centimes sous le nez de son père, qui, absorbé dans ses calculs, se contenta de sourire à cette charmante espièglerie. Puis on entendit son pas craintif, quoique hâté par la gourmandise, se perdre dans les escaliers. La femme, après avoir suivi des yeux son enfant jusqu'à ce que la porte se fût refermée sur lui, ramena son regard du fils au père, et, après un instant de silence, « Ah ça, monsieur de Beausire, dit-elle, il faudra pourtant que votre intelligence nous tire de la misérable position où nous sommes, sans quoi il faudra que j'aie recours à la mienne. » Et elle prononça ces derniers mots en minaudant, comme une femme à qui son miroir aurait dit le matin, sois tranquille, avec ce visage-là, on ne meurt pas de faim. Aussi, ma petite Nicole, répondit monsieur de Beausire, tu vois que je m'en occupe. Oui, en remuant les cartes et en piquant des cartons. Mais puisque je te dis que je l'ai trouvée. Quoi? Ma martingale. Bon, voilà que cela recommence. Monsieur de Beausire, je vous préviens que je vais chercher de mémoire parmi mes anciennes connaissances, s'il n'y en aurait pas quelqu'une qui eût le pouvoir de vous faire mettre comme fou à Charenton. Mais puisque je te dis qu'elle est infaillible. Ah, si monsieur de Richelieu n'était pas mort, murmura la jeune femme à demi-voix. Que dis-tu? Si monsieur le cardinal de Rohan n'était pas ruiné, hein? Et si madame de la Motte n'était pas en fuite, plaît-il? On retrouverait des ressources, et l'on ne serait pas obligé de partager la misère d'un vieux reître comme celui-là. Et d'un geste de reine, mademoiselle Nicole Leguay, dite madame Oliva, désigna dédaigneusement Beausire. Mais puisque je te dis, répéta celui-ci avec le ton de la conviction, que demain nous serons riches. Un million? Un million! Monsieur de Beausire, montrez-moi les 10 premiers louis d'or de vos millions et je croirai au reste. Eh bien, vous les verrez ce soir, les 10 premiers louis d'or. C'est justement la somme qui m'est promise. Et tu me les donneras, mon petit Beausire? Dit vivement Nicole. C'est-à-dire que je t'en donnerai 5 pour acheter une robe de soie à toi et un habit de velours au petit, et puis avec les 5 autres. Eh bien, avec les 5 autres, je te rapporterai le million promis. Ah, tu vas encore jouer, malheureux? Mais puisque je te dis que j'ai trouvé une martingale infaillible. Oui, la sœur de celle avec laquelle tu as mangé les 60 000 livres qui restaient de ton affaire du Portugal. Argent mal acquis ne profite pas, dit sentencieusement Beausire, et j'ai toujours eu l'idée que c'était la façon dont cet argent nous était venu qui nous avait porté malheur. Ah, il paraît que celui-ci t'arrive d'héritage, alors. Tu avais un oncle qui est mort en Amérique ou dans les Indes et qui te laisse 10 louis? C'est 10 louis, mademoiselle Nicole Le Guay, dit Beausire avec un certain air supérieur, c'est 10 louis, entendez-vous, seront gagnés non seulement honnêtement, mais encore honorablement, et pour une cause dans laquelle je me trouve intéressé, ainsi que toute la noblesse de France. Vous êtes donc noble, monsieur Beausire, dit en ricanant Nicole. Dites de Beausire, mademoiselle Le Guay. De Beausire, appuya-t-il, comme le constate l'acte de naissance de votre enfant, rédigé dans la sacristie de l'église Saint-Paul et signé de votre serviteur, Jean-Baptiste Toussaint, de Beausire, le jour où je lui ai donné mon nom. Beau cadeau que vous lui avez fait là, murmura Nicole. Et ma fortune, ajouta emphatiquement Beausire. « Si le bon Dieu ne lui envoie pas autre chose, » dit Nicole en secouant la tête, « le pauvre petit est bien sûr de vivre d'aumône et de mourir à l'hôpital. »« En vérité, mademoiselle Nicole, » dit Beausire d'un air dépité, « c'est à n'y pas tenir, vous n'êtes jamais contente. » « N'y tenez pas !» s'écria Nicole, lâchant la digue à sa colère longtemps contenue. « Eh, bon Dieu, qui vous prie d'y tenir ? Ah, Dieu merci, je ne suis pas embarrassée de ma personne ni de celle de mon enfant, et dès ce soir même, je puis, moi aussi, chercher fortune ailleurs. » Et Nicole, se levant, fit 3 pas pour marcher vers la porte. Beausire, de son côté, en fit un vers cette même porte qu'il barra en ouvrant les 2 bras. « Mais puisqu'on te dit, méchante, reprit-il, que cette fortune... »« Eh bien, demanda Nicole, elle vient ce soir, puisqu'on te dit que la martingale fut-elle fausse, ce qui est impossible, d'après mes calculs, ce serait 5 louis de perdu, et voilà tout. » Il y a des moments où Saint-Louis, c'est une fortune, entendez-vous, monsieur le dépensier. Vous ne savez pas cela, vous, qui avez mangé de l'or gros comme cette maison? Cela prouve mon mérite, Nicole. Et si j'ai mangé cet or, c'est que je l'avais gagné. Et si je l'avais gagné, c'est que je puis le gagner encore. D'ailleurs, il y a un Dieu pour les gens adroits. Ah oui, compte là-dessus. « Mademoiselle Nicole, dit Beausire, seriez-vous athée, par hasard ?» Nicole haussa les épaules. « Seriez-vous de l'école de monsieur de Voltaire, qui nie la Providence ?»« Beausire, vous êtes un sot, dit Nicole. « Ce qu'il n'y aurait rien d'étonnant, sortant du peuple, que vous eussiez de ces idées-là. Je vous préviens que ce ne sont pas celles qui appartiennent à ma caste sociale et à mon opinion politique. » « Monsieur de Beausire, vous êtes un insolent, » dit Nicole. « Moi, je crois, entendez-vous, moi, j'ai la foi, et quelqu'un me dirait, ton fils, Jean-Sébastien Toussaint de Beausire, qui est descendu pour acheter du sucre d'orge rouge avec une pièce de 2 sous, va remonter avec une bourse d'or dans la main, que je répondrai, cela peut être si c'est la volonté de Dieu. » Et Beausire leva béatement les yeux au ciel. « Beausire, vous êtes un imbécile !» dit Nicole. Elle n'avait pas achevé ces mots que l'on entendit dans les escaliers la voix du jeune Toussaint. « Hein, papa, maman » criait-il. Beausire et Nicole prêtaient l'oreille à cette voix chérie. « Papa, maman !» répétait la voix en se rapprochant de plus en plus. « Mais qu'est-il arrivé ?» cria Nicole en ouvrant la porte avec une sollicitude toute maternelle. « Viens, mon enfant, viens !»« Papa, maman !» continua la voix en se rapprochant toujours comme celle d'un ventriloque qui fait semblant d'ouvrir le panneau d'une cave. « Je ne serais pas étonné, » dit Beausire, saisissant dans cette voix ce qu'elle avait de joyeux, « je ne serais pas étonné que le miracle se réalisât et que le petit eût trouvé la bourse dont je parlais tout à l'heure. » En ce moment, L'enfant apparaissait sur la dernière marche de l'escalier et se précipitait dans la chambre, tenant à la bouche son morceau de sucre d'orge rouge, serrant de son bras gauche un sac de sucreries contre sa poitrine et montrant dans sa main droite ouverte et étendue un louis d'or qui, à la lueur de la maigre chandelle, reluisait comme l'étoile d'Aldébaran. « Oh, mon Dieu, mon Dieu !» s'écria Nicole, laissant la porte se refermer toute seule. « Que t'est-il donc arrivé, pauvre cher enfant ?» Et elle couvrait le visage gélatineux du jeune Toussaint de ces baisers maternels que rien ne dégoûte parce qu'ils semblent tout épurés. « Il y a, » dit Beausire en s'emparant adroitement du louis et en l'examinant à la chandelle, « il y a que c'est un vrai louis d'or valant 24 livres. » Et puis, revenant à l'enfant, « Où as-tu trouvé celui-là, Marmot, que j'aille chercher les autres ?»«
Je ne l'ai pas trouvé, papa, » dit l'enfant, « on me l'a donné. »«
Comment on te l'a donné ?» s'écria la mère.
« Oui, maman, un monsieur. »
Nicole fut tout près, comme Beausire avait fait pour le louis, de demander où était ce monsieur-là. Mais, prudente par l'expérience, car elle savait Beausire susceptible à l'endroit de la jalousie, elle se contenta de répéter « Un monsieur ?»«
Oui, petite mère, » dit l'enfant en faisant craquer son sucre d'orge sous ses dents, « un monsieur !»«
Un monsieur ?» répéta à son tour Beausire.
« Oui, petit papa, un monsieur qui est entré chez l'épicier pendant que j'y étais et qui a dit « Monsieur l'épicier, n'est-ce pas un jeune gentilhomme nommé de Beausire que vous avez l'honneur de servir en ce moment ?»
Beausire se rengorgea. Nicole haussa les épaules. « Et qu'a répondu l'épicier, mon fils ?» demanda Beausire.
Il a répondu « Je ne sais pas s'il est gentilhomme, mais il s'appelle en effet Beausire. »
« Et ne demeure-t-il pas ici tout près ?» demanda le monsieur.
« Ici, dans la maison à gauche, au troisième, en haut de l'escalier. »
« Donnez toutes sortes de bonnes choses à cet enfant, je paye, » a dit le monsieur.
Et puis, à moi, « Tiens, petit, voilà un louis, » a-t-il ajouté. « Ce sera pour acheter d'autres bonbons quand ceux-ci seront mangés. »
Alors il m'a mis le louis dans la main, l'épicier m'a mis ce paquet sur le bras et je suis parti bien content.
« Tiens, où est-il donc mon louis ?»
Et l'enfant, qui n'avait pas vu l'escamotage de Beausire, se mit à chercher son louis de tous les côtés.
« Petit maladroit, » dit Beausire, « tu l'auras perdu. »«
Ah mais non, mais non, mais non !» dit l'enfant.
Cette discussion eût pu devenir plus sérieuse sans l'événement qui va suivre et qui devait nécessairement y mettre fin. Tandis que l'enfant, doutant encore de lui-même, cherchait à terre le louis d'or qui reposait dans le double fond de la poche du gilet de Beausire, tandis que Beausire admirait l'intelligence du jeune Toussaint qui venait de se manifester par la narration que nous venons de rapporter, et qui s'est peut-être un peu amélioré sous notre plume, tandis que Nicole, tout en partageant l'enthousiasme de son amant pour cette précoce faconde, se demandait sérieusement quel pouvait être ce donneur de bonbons et ce bailleur de louis d'or, la porte s'ouvrit lentement, et une voix pleine de douceur fit entendre ces mots. « Bonsoir, mademoiselle Nicole, bonsoir, monsieur de Beausire, bonsoir, jeune Toussaint. » Chacun se retourna vers le côté d'où venait cette voix. Sur le seuil, la figure souriant à ce tableau de famille se tenait un homme fort élégamment vêtu.
« Ah, le monsieur au bonbon !» s'écria le jeune Toussaint.
« Le comte de Cagliostro !» dirent ensemble Nicole et Beausire.
« Vous avez là un charmant enfant, monsieur de Beausire, » dit le comte, « et vous devez vous trouver bien heureux d'être père. »
Il y eut, après ces gracieuses paroles du comte, un moment de silence, pendant lequel Cagliostro s'avança jusqu'au milieu de la chambre et jeta un regard scrutateur autour de lui, sans doute pour apprécier la situation morale et surtout pécuniaire des anciennes connaissances au milieu desquelles ces menées terribles et souterraines dont il était le centre le ramenaient inopinément. Le résultat de ce coup d'œil, pour un homme aussi perspicace que l'était le comte, ne pouvait laisser aucun doute. un observateur ordinaire eût deviné ce qui était vrai, que le pauvre ménage en était à sa dernière pièce de 24 sous. Des trois personnages au milieu desquels l'apparition du comte avait jeté la surprise, le premier qui rompit le silence fut celui auquel sa mémoire ne rappelait que les événements de la soirée et auquel, par conséquent, sa conscience n'avait rien à reprocher. « Ah, monsieur, quel malheur !» dit le jeune Toussaint. « J'ai perdu mon louis !» Nicole ouvrait la bouche pour rétablir les faits dans leur vérité, mais elle réfléchit que son silence vaudrait peut-être un second louis à l'enfant, et que ce second louis, ce serait elle qui en hériterait. Nicole ne s'était pas trompée. « Tu as perdu ton louis, mon pauvre enfant, » dit Cagliostro. « Eh bien, en voici deux. Tâche de ne pas les perdre cette fois-ci. » Et tirant d'une bourse dont la rotondité alluma les regards cupides de Beausire, deux autres louis d'or, il laissa tomber dans la petite main collante de l'enfant les deux pièces. « Tiens, maman, » dit celui-ci, courant à Nicole, « en voilà un pour toi et un pour moi. » Et l'enfant partagea son trésor avec sa mère. Cagliostro avait remarqué la ténacité avec laquelle le regard du faux sergent avait suivi sa bourse qu'il venait d'éventrer pour donner passage aux 48 livres dans les différentes évolutions qu'elle avait faites depuis la sortie de sa poche jusqu'à sa rentrée. En la voyant disparaître dans les profondeurs de la veste du comte, l'amant de Nicole poussa un soupir. « Et quoi, monsieur de Beausire ?» dit Cagliostro, « toujours mélancolique. Et vous, monsieur le comte, toujours millionnaire ? Eh, mon Dieu, vous qui êtes un des plus grands philosophes que j'ai connus, tant dans les derniers siècles que dans l'Antiquité, vous devez connaître cet axiome qui fut en honneur à toutes les époques. L'argent ne fait pas le bonheur. Je vous ai connu riche, relativement. » « Oui, répondit Beausire, c'est vrai, j'ai eu jusqu'à 100 000 francs. C'est possible, seulement à l'époque où je vous ai retrouvé, vous en aviez déjà mangé 40 000 à peu près, de sorte que vous n'en aviez plus que 60 000, ce qui, vous en conviendrez, était une somme assez ronde pour un ancien exempt. » Beausire poussa un soupir. « Qu'est-ce que 60 000 livres, dit-il, comparé aux sommes dont vous disposez, vous ?» À titre de dépositaire, monsieur de Beausire, car si nous comptons bien, je crois que ce serait vous qui seriez Saint-Martin, et moi qui serais le pauvre, et que vous seriez obligé, pour ne pas me laisser geler de froid, de me donner la moitié de votre manteau. Eh bien, mon cher monsieur de Beausire, rappelez-vous les circonstances dans lesquelles je vous ai rencontré. Vous aviez alors, comme je vous disais tout à l'heure, à peu près 60 000 livres dans votre poche. En étiez-vous plus heureux ? Beausire poussa un soupir rétrospectif qui pouvait passer pour un gémissement. « Voyons, répondez, » insista Cagliostro. « Voudriez-vous échanger votre position actuelle, quoique vous ne possédiez que ce malheureux louis que vous avez pris au jeune Toussaint ?»« Monsieur !» interrompit l'ancien exempt. « Ne nous fâchons pas, monsieur de Beausire. Nous nous sommes fâchés une fois et vous avez été forcé d'aller chercher dans la rue votre épée qui avait sauté par la fenêtre. Vous le rappelez-vous ?»« Vous le rappelez, n'est-ce pas ?» continua le comte, qui s'apercevait que Beausire ne répondait point. « C'est déjà quelque chose d'avoir de la mémoire. Eh bien, je vous le demande encore, voudriez-vous changer votre position actuelle, quoique vous ne possédiez que ce malheureux louis que vous avez pris au jeune Toussaint ?» Cette fois, l'allégation passa sans récrimination. « Contre la position précaire dont je suis heureux d'avoir contribué à vous tirer. » Non, monsieur le comte, dit Beausire, en effet, vous avez raison, je ne la changerai pas. Hélas, à cette époque, j'étais séparé de ma chère Nicole. Et puis, légèrement traqué par la police à propos de votre affaire du Portugal. Que diable est devenue cette affaire, monsieur de Beausire ? Vilaine affaire, autant que je puis me rappeler. Le tomber à l'eau, monsieur le comte, répondit Beausire. Ah, tant mieux, car elle devait fort vous inquiéter. Cependant, ne comptez pas trop sur cette noyade. Il y a de rudes plongeurs à la police, et si trouble ou si profonde que soit l'eau, une vilaine affaire est toujours plus facile à pêcher qu'une belle perle. Enfin, monsieur le comte, sauf la misère à laquelle nous sommes réduits, vous vous trouvez heureux, de sorte qu'il ne vous faudrait qu'un millier de louis pour que ce bonheur fût complet. Les yeux de Nicole brillèrent, ceux de Beausire jetèrent des flammes. C'est-à-dire, s'écria ce dernier, que si nous avions 1 000 louis, c'est-à-dire que si nous avions 24 000 livres, nous achèterions une campagne avec la moitié de la somme. Avec l'autre, nous nous constituerions une petite rente et je me ferais laboureur, comme Cincinnatus. Tandis que Nicole se livrerait tout entière à l'éducation de notre enfant. Comme Cornélie. Oh, mon Dieu, monsieur de Beausire, non seulement ce serait exemplaire, mais encore ce serait touchant. Vous n'espérez donc pas gagner cela dans l'affaire que vous menez en ce moment? Beausire tressaillit. Quelle affaire? Demanda-t-il. Mais l'affaire où vous vous produisez comme sergent aux gardes, l'affaire enfin pour laquelle vous avez rendez-vous, ce soir, sous les arcades de la place royale. Beausire devint pâle comme un mort. Oh, monsieur le comte, dit-il en joignant les mains d'un air suppliant. Quoi? Ah, ne me perdez pas! Bon, voilà que vous divaguez à présent. Est-ce que je suis lieutenant de police pour vous perdre? « Là, je te l'avais bien dit, s'écria Nicole, que tu te fourrais dans une mauvaise affaire. »« Ah, vous la connaissez, cette affaire, mademoiselle Leguet ?» demanda Cagliostro. « Non, monsieur le comté, c'est pour cela, quand il me cache une affaire, c'est qu'elle est mauvaise, je puis être tranquille. » « Eh bien, en ce qui concerne celle-ci, chère demoiselle, vous vous trompez. Elle peut être excellente, au contraire. »« Ah, n'est-ce pas ?» s'écria Beausire. « Monsieur le comte est gentilhomme, et monsieur le comte comprend que toute la noblesse est intéressée à ce qu'elle réussisse. Il est vrai que tout le peuple de son côté est intéressé à ce qu'elle échoue. Maintenant, si vous m'en croyez, mon cher monsieur de Beausire, vous comprenez, c'est un conseil que je vous donne, un vrai conseil d'ami. Eh bien, si vous m'en croyez, vous ne prendrez parti ni pour la noblesse ni pour le peuple. Mais pour qui prendrai-je parti, alors? Pour vous. Pour moi? « Eh, sans doute pour toi, dit Nicole. Par Dieu, tu as assez pensé aux autres, il est temps de penser à toi. » Vous l'entendez? Elle parle comme Saint Jean Bouche d'Or. Rappelez-vous ceci, monsieur de Beausire, toute affaire a un bon et un mauvais côté. Bon pour les uns, mauvais pour les autres. Une affaire, quelle qu'elle soit, ne peut être mauvaise pour tout le monde ou bonne pour tout le monde. Eh bien, il s'agit uniquement de se trouver du bon côté. « Ah, il paraîtrait que je ne suis pas du bon côté, hein ?»« Pas tout à fait, monsieur de Beausire, non. Il s'en faut du tout au tout. J'ajouterais même que si vous vous entêtez, vous savez que je me mêle de faire le prophète, j'ajoute même que si vous vous entêtez, cette fois, ce ne serait pas risque de l'honneur, ce ne serait pas risque de la fortune que vous courriez, ce serait risque de la vie. Oui, vous seriez probablement pendu. Monsieur, dit Beausire, en tâchant de faire contenance, mais en essuyant la sueur qui roulait sur son front, on ne pend pas un gentilhomme. C'est vrai, mais... pour obtenir d'avoir la tête tranchée, cher monsieur de Beausire, il faudrait faire vos preuves, ce qui serait long peut-être, assez long pour ennuyer le tribunal qui pourrait bien ordonner, provisoirement, que vous fussiez pendu. Après cela, vous me direz que quand la cause est belle, peu importe le supplice, le crime fait la honte et non pas l'échafaud, comme a dit un grand poète. « Cependant, » balbutia Beausire de plus en plus effaré, « oui, cependant, vous n'êtes pas tellement attaché à vos opinions que vous leur sacrifiez votre vie. Je comprends cela, diable. On ne vit qu'une fois, comme dit un autre poète, moins grand que le premier, mais qui, néanmoins, pourrait bien avoir raison sur lui. »
« Monsieur le comte, dit enfin Beau Sire, j'ai remarqué pendant le peu de relations que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous, que vous possédez une façon de parler des choses qui ferait dresser les cheveux sur la tête d'un homme timide.
« Au diable, ce n'est pas mon intention, fit Cagliostro. D'ailleurs, vous n'êtes pas un homme timide, vous. »
Non, répondit Beau Sire, il s'en faut même. Cependant, il y a certaines circonstances.
Oui, je comprends. Par exemple, celle où l'on a derrière soi les galères pour vol et devant soi la potence pour crime de lèse-nation, comme on appellerait aujourd'hui un crime qui, je suppose, aurait pour but d'enlever le roi.
Monsieur, monsieur, s'écria Beau Sire, tout épouvanté.
« Malheureux, fit Oliva, c'est donc sur cet enlèvement que tu bâtissais tes rêves d'or. »
« Il n'avait pas tout à fait tort, ma chère demoiselle. Seulement, comme j'avais l'honneur de vous le dire tout à l'heure, il y a à chaque chose un bon et un mauvais côté, une face éclairée et une face sombre. Monsieur de Beaucire a eu le tort de caresser la face sombre, d'adopter le mauvais côté. Qu'il se retourne, voilà tout. »
« Est-il encore temps ?» demanda Nicole.
« Oh, certainement.
Que faut-il que je fasse, monsieur le comte ?» demanda Beau Sire.
« Supposez une chose, mon cher monsieur, dit Cagliostro en se recueillant.
Laquelle ?«
Supposez que votre complot échoue. Supposez que les complices de l'homme masqué et de l'homme au manteau brun soient arrêtés. Supposez, il faut tout supposer dans le temps où nous vivons. » Supposez qu'il soit condamné à mort.
Mon Dieu, on a bien acquitté Bézenval et Ojard. Vous voyez qu'on peut tout supposer.
Supposez que ses complices soient condamnés à mort.
Supposez, ne nous impatientons pas, de supposition en supposition, nous arriverions à un fait.
Supposez que vous soyez un de ses complices.
Supposez que vous ayez la corde au cou et que l'on vous dise, pour répondre à vos doléances, car en pareille situation, si courageux qu'il soit, mon Dieu, un homme se lamente toujours peu ou prou, n'est-ce pas ?
Achevez, monsieur le comte, je vous en supplie, il me semble déjà que j'étrangle.
Pardieu, ce n'est pas étonnant, je vous suppose la corde au cou.
Eh bien, supposez qu'on vienne vous dire...
« Ah, pauvre monsieur de Beau Sire, cher monsieur de Beau Sire, c'est votre faute. »«
Comment cela ?» s'écria Beau Sire.
« Là, vous voyez bien que de supposition en supposition, nous arrivons à une réalité, puisque vous me répondez à moi comme si déjà vous en étiez là. »«
Je l'avoue. »
« Comment cela ?» vous répondrez la voix, parce que non seulement vous pouviez échapper à cette mâle mort qui vous tient en ses griffes, mais encore gagner 1000 louis avec lesquels vous eussiez acheté cette petite maison aux charmilles vertes où vous désireriez vivre en compagnie de mademoiselle Oliva et du petit Toussaint de 500 livres de rente que vous fussiez constitué avec les 12 000 livres qui n'eussent point été employés à l'achat de la maison, vivre, vous le disiez, en bon cultivateur, chaussé de pantoufles l'été et de sabots l'hiver, tandis qu'au lieu de ce charmant horizon, nous avons là, vous surtout, devant les yeux, la place de grève, plantée de 2 ou 3 vilaines potences, dont la plus haute vous tend les bras.
Pouah, mon pauvre monsieur de Beau Sire, la laide perspective!
Mais enfin, comment aurais-je pu échapper à cette mâle mort? Comment aurais-je pu gagner ces 100 000 louis qui assuraient ma tranquillité, celle de Nicole et celle de Toussaint?
Demanderiez-vous toujours, n'est-ce pas?
Rien de plus facile, répondrait la voix. Vous aviez là, près de vous, à 2 pas, le comte de Cagliostro.
Je le connais, répondriez-vous, un seigneur étranger qui habite Paris pour son plaisir et qui s'y ennuie à pâmer quand il manque de nouvelles.
C'est cela même. Eh bien, vous n'aviez qu'à aller le trouver et lui dire, monsieur le comte,
« Mais je ne savais pas où il demeurait !» s'écria Beau Sire. « Je ne savais pas qu'il fût à Paris, je ne savais même pas qu'il vécût encore. »
Aussi, mon cher monsieur de Beausire, vous répondrez la voix, c'est pour cela qu'il est venu vous trouver. Et du moment qu'il est venu vous trouver, convenez-en là, vous n'avez plus d'excuses. Eh bien, vous n'aviez qu'à lui dire, « Monsieur le comte, je sais combien vous êtes friand de nouvelles, j'en ai et des plus fraîches. Monsieur, frère du roi, conspire. »«
Bah,
oui, avec le marquis de Favras. »
Pas possible.
Si fait, j'en parle savamment puisque je suis un des agents de monsieur de Favras.
Vraiment, et quel est le but du complot?
D'enlever le roi et de le conduire à Péronne.
Eh bien, monsieur le comte, pour vous distraire, je vais heure par heure, si vous le désirez, minute par minute, s'il le faut, vous dire où en est l'affaire.
Alors, mon cher ami, le comte, qui est un seigneur généreux, vous eût répondu,
« Voulez-vous réellement faire cela, monsieur de Beausire ?»«
Oui !»«
Eh bien, comme toute peine mérite salaire, si vous tenez la parole donnée, j'ai là, dans un coin, 24 000 livres que je comptais employer à une bonne action. Ma foi, je les passerai à ce caprice, et le jour où le roi sera enlevé, où monsieur de Favras prie, vous viendrez me trouver, et, foi de gentilhomme, les 24 000 livres vous seront remises, comme vous seront remises ces 10 louis, non pas à titre d'avance, non pas à titre de prêt, mais à titre de simple don. » Et, à ces paroles, comme un acteur qui répète avec les accessoires, le comte de Cagliostro tira de sa poche la pesante bourse, y introduisit le pouce et l'index, et, avec une dextérité qui témoignait de son habitude à ce genre d'exercice, il y pinça juste 10 louis, ni plus ni moins, que, de son côté, Beausire, il faut lui rendre cette justice, avança la main pour recevoir. Cagliostro écarta doucement cette main.
Pardon, monsieur de Beausire, dit-il, nous faisions, je crois, des suppositions.
Oui, mais, dit Beausire, dont les yeux brillaient comme deux charbons ardents, n'aviez-vous pas dit, monsieur le comte, que, de supposition en supposition, nous arriverions au fait?
Y sommes-nous arrivés? Beausire hésita un moment. Hâtons-nous de dire que ce n'était pas l'honnêteté, la fidélité à la parole donnée, la conscience soulevée qui causait cette hésitation. Nous l'affirmerions que nos lecteurs connaissent trop bien monsieur de Beausire pour ne pas nous donner un démenti. Non, c'était la simple crainte que le comte ne tînt point sa promesse.
« Mon cher monsieur de Beausire, dit Cagliostro, je vois bien ce qui se passe en vous. »
Oui, répondit Beausire, vous avez raison, monsieur le comte, j'hésite à trahir la confiance qu'un galant homme a mise en moi. » Et, levant les yeux au ciel, il secoua la tête comme quelqu'un qui se dit « Ah, c'est bien dur !»«
Non, ce n'est pas cela, répliqua Cagliostro, et vous mettez une nouvelle preuve de la vérité de cette parole du sage, l'homme ne se connaît pas soi-même. »
Qu'est-ce donc? Demanda Beausire, un peu ébouriffé de cette facilité qu'avait le comte de lire jusqu'au plus profond des cœurs.
C'est que vous avez peur qu'après vous avoir promis les 1 000 louis, je ne vous les donne pas.
Oh, monsieur le comte, c'est tout naturel, je suis le premier à vous le dire, mais je vous offre une caution.
Une caution? Oh, monsieur le comte n'en a certes pas besoin.
Une caution qui répondra de moi corps pour corps.
Et quelle est cette caution? Demanda timidement Beausire.
Mademoiselle Nicole Oliva Leguet.
Oh! S'écria Nicole, si monsieur le comte nous promet, le fait est que c'est comme si nous tenions, Beausire.
Hein, voyez, monsieur, voilà ce que c'est que de remplir scrupuleusement les promesses qu'on a faites. Un jour que mademoiselle était dans la situation où vous êtes, moins le complot, c'est-à-dire un jour où mademoiselle était fort recherchée par la police, je lui fis une offre. C'était de venir prendre retraite chez moi. Mademoiselle hésitait, mais elle craignait pour son honneur. Je lui donnais ma parole, et malgré toutes les tentations que j'eus à subir, et vous comprendrez mieux que personne, « Je l'ai tenu, monsieur de Beausire.
Est-ce vrai, mademoiselle ?»«
Oh, cela, s'écria Nicole, sur notre petit Toussaint, je le jure.
Vous croyez donc, mademoiselle Nicole, que je tiendrai la parole que j'engage aujourd'hui à monsieur de Beausire de lui donner 24 000 livres le jour où le roi aura pris la fuite et le jour que monsieur de Favras sera arrêté, sans compter, bien entendu, que je desserre ce nœud coulant qui vous étranglait tout à l'heure et qu'il ne sera plus jamais question pour vous ni de corde ni de potence, à propos de cette affaire du moins. Je ne réponds pas au-delà. Un instant, entendons-nous bien, il y a des vocations.
C'est-à-dire, monsieur le comte, répondit Nicole, que pour moi, c'est comme si le notaire y était passé.
Eh bien, ma chère demoiselle, dit Cagliostro, en alignant sur la table les 10 louis qu'il n'avait point lâchés, faites passer votre conviction dans le cœur de monsieur de Beausire, c'est une affaire conclue. Et de la main, il fit à Beausire signe d'aller causer un instant avec Nicole. La conversation ne dura que 5 minutes, mais il est juste de dire que, pendant ces 5 minutes, elle fut des plus animées. En attendant, Cagliostro regardait à la chandelle le carton piqué et faisait des mouvements de tête comme pour saluer une vieille connaissance.
« Ah, dit-il, c'est la fameuse martingale de Monsieur Law que vous avez retrouvée là.
J'ai perdu 1 000 000 sur cette martingale. » Et il laissa négligemment retomber la carte sur la table. Cette observation de Cagliostro parut donner une nouvelle activité à la conversation de Nicole et de Beausire. Enfin, Beausire parut décidé. Il vint à Cagliostro, la main étendue, comme un maquignon qui veut conclure un indissoluble marché. Mais le comte se recula en fronçant le sourcil. « Monsieur, dit-il, entre gentilshommes, la parole vaut le jeu. Vous avez la mienne, donnez-moi la vôtre. »«
Foi de Beausire, monsieur le comte, c'est convenu. »«
Cela suffit, monsieur, dit Cagliostro. » Puis tirant de son gousset une montre sur laquelle était le portrait du roi Frédéric de Prusse, enrichi de diamants, « Il est 9h15, monsieur de Beausire, dit-il. À 9h précise, vous êtes attendu sous les arcades de la place royale du côté de l'hôtel Sully. Prenez ces 10 louis, mettez-les dans la poche de votre veste, endossez votre habit, saignez votre épée, passez le pont Notre-Dame et suivez la rue Saint-Antoine. Il ne faut pas vous faire attendre. » Beausire ne se le fit pas dire 2 fois. Il prit les 10 louis, les mit dans sa poche, endossa son habit et ceignit son épée.
« Où retrouverai-je, monsieur le comte ?»«
Au cimetière Saint-Jean, s'il vous plaît, quand on veut, sans être entendu, causer d'affaires pareilles à celle-ci, mieux vaut en causer chez les morts que chez les vivants. »«
Et à quelle heure ?»«
Mais alors que vous serez libre, le premier venu attendra l'autre. »
« Monsieur le comte a quelque chose à faire ?» demanda Beausire avec inquiétude en voyant que Cagliostro ne s'apprêtait pas à le suivre.
« Oui, dit Cagliostro, j'ai à causer avec mademoiselle Nicole. »
Beausire fit un mouvement.
« Oh, soyez tranquille, cher monsieur de Beausire, j'ai respecté son honneur quand elle était jeune fille. À plus forte raison, le respecterai-je quand elle est mère de famille.
Allez, monsieur de Beausire, allez !»
Beausire jeta un regard à Nicole, regard dans lequel il sembla lui dire « Madame de Beausire, soyez digne de la confiance que j'ai en vous ». Il embrassa tendrement le jeune Toussaint, salua avec un respect mêlé d'inquiétude le comte de Cagliostro et sortit juste comme l'horloge de Notre-Dame sonnait les 3/4 avant 9 heures.